VOA Afrique, les infos à Washington.
Raissa Girondin avec vous pour votre bulletin d'information. En République démocratique du Congo, la police et le parquet ont ouvert une enquête après la découverte à Kinshasa d'au moins 4 corps de jeunes gens tués dans des circonstances mystérieuses. C'est ce qu'a déclaré la police congolaise alors que des témoins mettent en cause une opération anti-délinquance des forces de l'ordre. Je ne peux pas confirmer que les corps qui ont été retrouvés sont le fait d'opérations de la police. Les vérifications sont en cours, a répondu mercredi Abdulaziz Tioy, le directeur du bureau conjoint de l'ONU pour les droits de l'homme en RDC, interrogé lors du point presse des Nations Unies. Et République démocratique du Congo, toujours, la commission électorale avait publié hier la liste des 21 candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Cette liste consacre définitivement l'exclusion de l'ancien chef rebelle Jean-Pierre Bemba et de l'opposant en exil Moïse Katumbi. Des élections législatives et provinciales sont également prévues le même jour. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FR, notre station partenaire à Kinshasa.
Le chemin est définitivement balisé en direction des élections, a dit Corneille Nanga, le président de la Commission électorale nationale indépendante, après avoir rendu public, conformément au calendrier électoral, les listes définitives des candidats présidents de la République et députés nationaux. Cette étape est un nouveau pas de géant qui atteste de la volonté de tenir les élections dans le délai prévu par le calendrier électoral a-t-il poursuivi, se félicitant au passage du travail abattu par la centrale électorale. 21 candidats présidents de la République seront donc sur la ligne de départ de la présidence du 23 décembre prochain, soit 10 de plus qu'en 2011. Parmi eux, les opposants Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Vital Kamerhe ou encore Freddy Matungulu, Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat du Front commun pour le Congo, la coalition au pouvoir, des indépendants comme Noël Tchani, Alain Daniel Shekomba ou Seth Kikuni, l'ancien premier ministre Sami Badibanga porté par les progressistes et l'ancien ministre cadre de la majorité présidentielle Tryphon Kinkye Mulumba. Une seule dame parmi les 23, Marie-Josée Ifoku. À la députation nationale, par contre, ils seront 15 355 à concourir pour 500 sièges. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et le Burkina Faso, en proie à des attaques djihadistes récurrentes dans l'est de son territoire, a interdit la circulation nocturne des engins à 2 et 3 roues dans cette zone. C'est ce qu'a annoncé le colonel Ousmane Traoré, le gouverneur de la région. Il a ajouté dans un communiqué que les véhicules automobiles de transport de personnes ou de marchandises qui sont autorisés à circuler sur l'ensemble du réseau routier de la région seront soumis à des contrôles stricts et rigoureux. Le gouverneur a également maintenu en vigueur la mesure de fermeture temporaire des sites d'orpaillage, activité où sont généralement utilisés des explosifs artisanaux. Au Nigeria, 9 personnes ont été tuées, 9 autres blessées dans l'attaque par des membres présumés du groupe Boko Haram de 2 villages du nord du pays, non loin de la capitale de l'État de Borno Maïdougouri. Ils ont attaqué des villages quand il pleuvait et que les gens étaient à l'intérieur. Les villageois effrayés se sont précipités dehors où ils ont été abattus aveuglément, a déclaré un responsable milicien, Babakoura Kolo. Au Niger, le ministère de la Santé a ordonné hier la fermeture de plusieurs centrales pharmaceutiques privées de Niamey, notamment pour des médicaments douteux ou périmés. Nani Talani.
S'exprimant à Mogadiscio, le ministre adjoint somalien de l'éducation, Abdirahmane Jabir, a levé tout équivoque sur la volonté de son pays à voler au secours du Soudan du Sud.
D'aucuns se demandent comment un pays comme la Somalie, qui est en train de sortir d'un conflit et de l'adversité, peut fournir de troupes de maintien de la paix. Le Burundi était en guerre quand il nous a envoyé des soldats et nous a aidés à reconstruire notre pays. Qu'est-ce qui nous empêcherait de contribuer au rétablissement de la paix dans d'autres parties de l'Afrique en conflit ?
L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, a proposé que des pays comme la Somalie, l'Ouganda, le Soudan et Djibouti puissent aider à assurer la sécurité au Soudan du Sud. Leurs soldats seraient intégrés au sein de la force de maintien de la paix déjà présente sur place. La mission onusienne au Soudan du Sud compte 17 000 soldats chargés de protéger les civils, de créer un couloir sécurisé pour l'acheminement de l'aide humanitaire et d'enquêter au sujet des violations des droits humains.
Et c'était Michel Joseph. En Afrique du Sud, un ex-conseiller municipal a été arrêté pour outrage et violence publique après la diffusion sur les réseaux sociaux d'un message où il profère une insulte raciste à l'encontre du président Cyril Ramaphosa. Dans cette vidéo, Kessy Nahir traite le chef de l'État de kafir, le terme le insultant utilisé pour désigner les Noirs sous le régime raciste de l'apartheid. Je demande que le président kafir Cyril Ramaphosa soit inculpé pour fraude au détriment de la nation, a-t-il dit. Il doit comparaître jeudi devant un tribunal. En Ouganda, l'ex-chanteur et député Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, a été emmené par des policiers aujourd'hui dès son arrivée à l'aéroport international d'Entebbe. Il revenait d'un séjour aux États-Unis où il était parti se faire soigner suite à de mauvais traitements qu'il dit avoir subis de la part des services de sécurité ougandais lors de sa détention. « Nous ne sommes pas certains de l'endroit où ils l'ont emmené », a indiqué son épouse. Et un peu de sport, Pierre-François Aubameyang, père de Pierre-Éric Aubameyang et Daniel Cousin, l'ancien international gabonais, prennent la tête de la sélection du Gabon. Aubameyang et Cousin succèdent à José Antonio Camacho, limogé mi-septembre, après une défaite du Gabon en amical contre la Zambie.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et l'actualité dans le reste du monde, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un espère la tenue prochaine d'un deuxième sommet avec le président américain Donald Trump. C'est ce qu'a affirmé le président sud-coréen Moon Jae-in à son retour d'une visite de 3 jours au nord. Hier, les États-Unis ont salué les engagements importants pris par la Corée du Nord lors du sommet intercoréen de Pyongyang. Washington s'est dit prête à reprendre les négociations immédiatement en vue d'une dénucléarisation rapide qui devra s'achever d'ici janvier 2021. Des précisions d'Irénée Hermanombo.
Les États-Unis félicitent le président Moon Jae-in de la Corée du Sud et Kim Jong-un de la Corée du Nord pour l'issue positive de leur sommet à Pyongyang, saluant leur engagement en faveur d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a invité son homologue nord-coréen Ri Yong-ho à le rencontrer la semaine prochaine à New York en marge de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. Il a applaudi la décision nord-coréenne d'achever le démantèlement déjà annoncé du site de Tongjiang-ri dédié aux tests de moteurs de missiles en présence d'inspecteurs américains et internationaux, ainsi que la proposition d'un démantèlement permanent de toutes les installations à Yongbyon en présence d'inspecteurs américains et de ceux de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Kim Jong-un s'est dit prêt à fermer ce complexe nucléaire, mais à condition que Washington prenne des mesures correspondantes, une demande à laquelle Mike Pompeo n'a pas encore réagi.
Jack Ma, le fondateur du géant chinois de commerce électronique Alibaba, a renoncé à son ambitieuse promesse de créer 1 million d'emplois aux États-Unis pour cause de guerre commerciale. L'homme le plus riche de Chine avait pris cet engagement en janvier 2017 aux côtés de Donald Trump à New York. Cette promesse fondée sur 2 conditions préalables, celle d'une coopération amicale entre la Chine et les États-Unis et celle d'un commerce bilatéral rationnel et objectif, a-t-il déclaré à l'agence de presse officielle Chine Nouvelle. La situation actuelle fait que ces conditions préalables sont compromises et que cet engagement est désormais impossible à tenir. Le locataire de la Maison-Blanche a annoncé lundi de nouveaux tarifs douaniers sur 200 milliards supplémentaires qui seront mis en place dès le 24 septembre. La Chine répliquera le même jour avec des taxes sur 60 milliards de dollars d'importations américaines additionnelles. Les chefs d'État et de gouvernement européens sont au sommet de Salzbourg en Autriche. La réunion destinée à aplanir les différences sur la question des migrants n'a pas permis d'avancer. Les États membres de l'Est, à commencer par la Hongrie, refusent toute redistribution des réfugiés et l'Italie bloque en bonne partie ses ports pour le débarquement des migrants. Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a lui commencé la réunion en évoquant les réserves de la Hongrie, de la Grèce, de l'Italie ou de l'Espagne à l'égard du projet de la Commission visant à renforcer l'agence de garde-frontières européen Frontex pour porter ses effectifs à 10 000 agents en 2020. Un adolescent palestinien a été tué par un tir israélien lors d'affrontements mercredi soir le long de la frontière très surveillée à l'est de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Selon le ministère de la Santé de Gaza, l'adolescent manifestait après la nuit tombée dans le cadre de la marche du retour qui commémore l'exode palestinien en 1948. Voilà pour les informations. On se retrouve dans 55 minutes pour un prochain bulletin. Excellente suite de programme.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.